18h-19h, lundi politique avec Rose et Méziane sur Beurre FM.
Eh non, c'est pas lundi politique, justement. Nous, on est passé après, on passe après Rose Améziane, justement. C'est le 19h-20h et c'est le Time Sport.
Time Sport.
Bonjour à tous, et oui, en ce début de semaine, bienvenue à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Beurre FM. Nous sommes le 15 juin, 19h pétante, dans cette émission, on le rappelle. Alors, on va parler au menu de l'émission de ce soir de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, l'heure de l'offensif. On accueillera l'ancien international Abdelatif Benazi, ancien international de rugby du monde de l'Ovalie, avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Un mot large, une large page sur Cristiano Ronaldo et la Juve et assez poussif, sans oublier L'Oréal versus Barça. Et oui, cette reprise de la Liga. Dans la fin de cette émission, on parlera du fameux comité olympique américain qui veut laisser plus de liberté et de parole aux athlètes. Voilà, ça sera pour le menu de cette émission ce lundi soir. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Comme d'habitude, dans cette émission, vous pouvez réagir au 0153483000 et aussi avec les tweetos sur la fameuse tweetosphère. Un petit clin d'œil à notre community manager Farid Rouas, mais aussi à la réalisation, la personne de Nicolas et de Yanis, les réalisateurs ce soir. Avec moi, pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, les hommes de l'ombre et les femmes de l'ombre. Myriam Bensa, la coordinatrice de cette émission, sans oublier Jouba Ouchen, le rédacteur en chef, mais aussi notre consultant, il est là, Abdel Ahmed. Comment ça va, Abdel?
Bilal, bonsoir à tous. Ça va très bien. Très content de retrouver l'émission et j'ai hâte de débattre là pendant une heure et de parler foot.
Ouais. On est justement ensemble avec aussi Anas et Abou qui sont avec nous. On va un petit peu en retard, mais c'est pas grave. On va enchaîner justement sur le premier sujet de cette émission. C'est parti.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et justement, avec nous, alors, on va entamer cette page sur le Paris Saint-Germain, des jeunes qui quittent le club prématurément, des joueurs historiques laissés libres. Où va le Brésilien Leonardo avec son Paris Saint-Germain? On t'écoute, Abdel.
Bah, Leonardo, il va dans le bon sens, à mon avis. C'est-à-dire que...
Ça, c'est toi qui le dis, hein. Mmh. On veut pas le supporter parisien, là, ce soir.
On va parler honnête. Même si je suis supporter, il faut voir ce qu'il a fait. Quand il est arrivé au PSG, il a fait de très bonnes choses. Le club était plus ou moins respecté et a retrouvé un peu d'éclat. Quand il est parti, ça a été très compliqué. On a vu des joueurs qui respectaient peut-être plus le club. Et son retour fait du bien, notamment on va dire au niveau sportif où Paris retrouve déjà les quarts de finale de la Ligue des Champions.
Ouais.
Et concernant la politique qu'il a avec les jeunes ainsi qu'avec les anciens, c'est quelque chose qu'il a amené depuis son début d'aventure au PSG. L'exemple numéro un, c'est Néné, par exemple, qui avait fait son temps et qui, à 31 ans, 32 ans, a été mis un peu sur le côté par Leonardo, qui lui a demandé de se trouver une porte de sortie. Ça, c'était déjà à l'époque. Donc, c'était en quoi? En 2011. Donc, 9 ans après, quand on voit que Cavani, Thiago Silva sont pas forcément conservés, je trouve qu'il suit sa logique et c'est une bonne idée.
Ouais, mais c'est un peu logique parce que là...
Ouais, Anas.
Alors, on arrive par rapport au coronavirus et en plus de ça, il y a le problème des fonds. Il faut qu'ils virent des joueurs et ça coûte beaucoup trop cher. Thiago Silva, il avait un salaire énorme. Cavani, même s'il a dit, enfin, de ce qui a été dit, qu'il pouvait diviser son salaire par deux, reste quand même un bon salaire et il vire les gens. Après, c'est malheureusement dommage, mais c'est pour le bien du club.
Donc, ouais. En fait, on le voit comme ça, pour le bien du club.
Ouais, pour le bien.
Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein, l'enjeu financier, il rentre en compte, mais ce que je veux dire, c'est que le discours par rapport à l'âge, il l'a quand même beaucoup mis en avant, et ça depuis le début où il arrive au PSG. Après, concernant les jeunes, c'est un peu plus problématique dans le sens où les jeunes, ils veulent croquer très rapidement au niveau financier. Ouais. Et ça se fait de plus en plus rare qu'un jeune qui a fait sa formation dans un club signe son premier contrat dans ce club-là. Ouais, et ça, c'est vraiment dommage. À Paris, ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Et en plus, ils ont supprimé la Nationale 2, là où les jeunes pouvaient s'exprimer. Et ça, c'est assez compliqué. Et Kouassi, Aouchiche, les joueurs comme ça, ils ont eu leur chance cette année en équipe première. Et c'est dommage qu'ils aient pas voulu continuer l'aventure. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais je pense qu'ils ne seront pas du côté de la capitale l'année
prochaine.
C'est
bizarre, pourquoi c'est en tout cas? Parce qu'on l'a assez vu cette saison. Il a fait de bonnes performances, surtout en Ligue des Champions, on ne l'attendait pas forcément.
Il est polyvalent en plus.
Ouais. Ouais. Et, du coup, c'est un bon gabarit, il peut jouer partout, entre guillemets, plutôt défensif, mais il est pas mal. Et le problème est que c'est, on ne sait pas les fonds. Tu vois, parce qu'il y a des dires qui font qu'ils lui ont promis du temps de jeu en Ligue 1 plus en Ligue des Champions. Il peut jouer, signer son premier contrat au PSG, c'est un titi parisien. Au pire des cas, s'il est pas content, il a juste à faire, il signe son contrat. Contrat, c'est un titi parisien, il signe son premier contrat pro au club. C'est un peu minimum de fierté. Et après, si ça marche pas, bah il va ailleurs.
Après, pour revenir sur le cas de Kouassi,
pour toi.
Moi, je peux comprendre que
Kouassi, le titi parisien,
qu'il hésite à signer. Bon, quand tu vois que en défense, il y a Diallo, il y a Kerrer au milieu de terrain.
Ouais, mais c'est pas des vrais.
Il y a Paredes, il y a Gueye, il y a Herrera. Le titi parisien, je dis, mais même si on me fait des promesses, est-ce que c'est sûr que j'aurai du temps de jeu? C'est pas sûr.
Ouais, mais
même si on a eu
à
beaucoup la saison. Oui,
il y a du temps de jeu, mais à un moment donné, quand t'es coach et que t'arrives, même t'es jeune, t'arrives à bousculer la concurrence, la hiérarchie. Ouais. Si t'es honnête, tu joueras même devant des mecs soi-disant cadres ou un peu plus âgés. Kouassi, il a eu sa chance. Il a été bon en plus aux deux postes, comme on disait juste avant, en défense centrale, au milieu de terrain. C'est quelqu'un en plus qui est simple, qui joue en deux, trois touches maximum. Il croque pas le ballon.
Bien sûr.
Et après, pour Aouchiche, c'est peut-être un peu différent parce que il a un profil un peu numéro 10. C'est pas forcément le système
du
PSG. Après, on en revient à une chose, notamment chez jeunes, c'est l'entourage. Est-ce que c'est les petits qui veulent croquer un peu financièrement ou est-ce que c'est les parents, les agents véreux et compagnie?
C'est un peu plus compliqué. Le même profil que Adli.
Alors, Anas.
Aouchiche, Adli, c'est exactement le même.
Il est parti à Bordeaux.
Ouais, exact. Mais après, le problème, c'est que je trouve que c'est dommage. Il fallait qu'il signe quand même. Je parle de Kouassi. Je préfère que Kouassi signe, mais malheureusement, c'est dommage. Après, il va se perdre en Europe. Hein. J'en suis quasi sûr.
Salut de faire le bon choix. Ouais. Après, pour revenir sur les décisions prises par Leonardo, je trouve que c'est logique. On arrive à un fin de cycle pour Thiago Silva, pareil pour Cavani.
Ah oui, ça pour fait toi, Cavani aussi.
Bah, ça fait depuis plus de 5 ans.
Ouais.
Plus de 5 ans, ils sont au club.
Ouais.
Donc, je peux comprendre que
Cavani, il aurait pu donner plus.
Il aurait
pu donner quand même une saison encore.
Cavani, le problème, c'est qu'on ne l'a peut-être pas laissé un peu le temps parce qu'il a été blessé. C'est peut-être l'une des plus grosses blessures qu'il a eues dans sa carrière en termes de durée d'indisponibilité. Mais ce qui est fou, c'est qu'il a quand même réussi à reprendre le dessus alors qu'il avait soi-disant perdu sa place. Donc c'est vrai qu'il a du caractère. Après, pour Thiago Silva, c'est vrai que ça fait 8 ans qu'il est là. L'année prochaine, si Cavani et Thiago Silva s'en vont comme c'est le cas, Verratti restera le seul du début de l'ère Qatari. Ça marque vraiment la fin d'une époque et le début d'un nouveau cycle au PSG qui est obligatoire pour atteindre les objectifs, notamment comme la Ligue des Champions et autres.
Mais est-ce que ce sera un bon cycle ou pas, ça
c'est une autre question,
dans les prochains mois.
Mais pour le moment, je pense pas que...
Ouais, comment dans les prochains mois? Là, j'entends Anas qui est assez pessimiste. Et toi aussi, tu le rejoins au bout, tu as pas honte quand même?
Non, mais
tu me dis, à l'approche de la Ligue des Champions, et toi, tu me dis, on verra quoi? On verra quoi? Non, c'est le grand Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé avec Neymar Junior c'est conquérant.
Non, parce que
alors, dis-nous tout. Allez,
il est pas sur ce, voilà.
Le PSG a recruté des joueurs comme Diallo qui ont besoin de s'affirmer, donc enlever un cadre comme Silva, ça permet d'avoir plus de temps de jeu et pour moi c'est un bon choix. Après devant, faudra recruter.
Je reviens sur ce que tu veux dire sur Diallo, c'est un recrutement, mais au final Diallo, qu'est-ce qu'il a, il a servi à quoi au final, en vrai? Tu vois,
peut-être que c'est pour maintenant justement. Après,
tu penses qu'il peut avec l'équipe?
Je pense que pour moi il sera doublure dans le sens où ce qui peut même marquer parenthèse.
Ouais,
après il est polyvalent, ça c'est vrai. Mais pour moi de toute façon quand il est arrivé, il était quatrième derrière les trois qui étaient déjà en place.
Pourquoi l'avoir pris alors?
C'est comme ça peut-être que ça, de faire revenir un joueur français gaucher. Peut-être qu'il préparait l'après, on ne sait pas trop.
C'est pour ça que ça fait peur quand tu Thiago Silva part. On ramène qui?
Mais pour moi,
justement,
c'est ça le problème.
Alors Leonardo,
pour moi, je pense que c'est bien d'affirmer de la possibilité à des joueurs de s'affirmer comme Kimpembe et Diallo. Pour moi, après,
peut-être aller voir ailleurs aussi. Leonardo prêt à attaquer à bout. L'Olympique Lyonnais sur tous les fronts après que Lyon ait approché et même chipé des joueuses du PSG féminin. Quel atout peut vraiment intéresser le Paris Saint-Germain? Avec un temps sur Aouar ou sinon Dubois ou même Memphis Depay. Alors, il promet une contre-attaque.
Ouais, mais
il a peut-être déjà lancé même.
Pas sûr. Ouais. Pas sûr, peut-être c'est du bluff, on sait pas.
Ouais, ouais,
moi je pense que tu as raison, Leonardo est bon.
Bah oui, très très bon. Il est bon le Brésilien.
Ouais, bah oui, et du coup c'est ça, mais je pense qu'il a des cartes. Mais j'ai peur ouais. Franchement, j'ai peur. Ouais.
C'est, mais alors là, quand même, c'est assez incroyable quand même le discours que tu tiens ce soir, consultant Anas avec nous, et même un peu à bout. Moi, je croyais que les Parisiens étaient plutôt sereins, mais vraiment, hein.
Avec toute
neutralité. Moi, par exemple, aujourd'hui, moi, je vois la chose en grand, comme le Paris Saint-Germain. Ça veut dire que je vois Marseille, je sais pas, ou encore Bordeaux, je sais pas. Et justement, je vois les choses en grand pour la Champions League à venir, et aussi même pour le championnat. Quand même, c'est le Paris Saint-Germain, ils sont là.
En 2017 aussi, c'était le Paris Saint-Germain. On n'a pas pris le championnat. C'est Monaco qui l'a gagné, donc en fait, ça ne veut rien dire.
C'est... Ouais.
Tu vois, donc on ne peut pas savoir. En plus, le corona, avec plein de choses, ça a changé.
Avec ce confinement, oui. Ouais,
ça change énormément. Mais du coup, on ne sait pas.
Abou,
non, par rapport
à avec Abdel.
Non, franchement, moi, je pense que. La stratégie de Leonardo, elle est tout à fait logique. Voilà, après, au bout d'un moment, il faut remettre les points. Il faut mettre les points sur les i. Voilà, Thiago Silva, il a fait ce qu'il a pu pendant plus de 8 ans. Malheureusement, on n'a pas eu, ils n'ont pas réussi à atteindre le Graal en Ligue des Champions. Cavani aussi, il a fait ce qu'il a pu. Ouais. Donc après, pour revenir sur Diallo, oui, son recrutement était étrange. Donc c'est bien que au bout d'un moment, Leonardo, il essaye de faire les choses de manière cohérente. Donc
après, peut-être qu'il est dépassé aussi.
On va voir ce que ça va donner.
Non, franchement,
Anas, quand même, à bout.
Non, c'est pas ça. C'est qu'en vrai, Leonardo, quand il est revenu au PSG, il l'a dit, il a trouvé l'état du PSG encore pire que la première fois quand il a signé.
Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux.
Justement, je pense qu'il a remis un cadre et certaines bases parce qu'il avait déjà connu.
Mais il le fait à chaque fois, malheureusement.
Oui, mais parce que
c'est
un peu ennuyeux.
Il va repartir sur une nouvelle base.
Mais sur combien de bases on va repartir pour refinir en quart de finale?
Je comprends. Il veut écrire une nouvelle page blanche. Je comprends.
Par rapport à ce qui va se passer là.
Et le virage donc pris par le Paris Saint-Germain est assez inquiétant pour certains. Ouais. Aussi même pour ses supporters.
Il est inquiétant. Il est incertain.
C'est inconnu. S'il te plaît, on sait que t'as des penchants pour Marseille, s'il te plaît.
Incertain.
J'ai pas de penchants pour Marseille. Moi, je vibre le football. Je suis un grand amoureux de cette Ligue 1 Conforama, cette Ligue des talents.
Tu m'as parlé des clubs de Marseille.
Ah bah non.
Attention à ce que tu
fais. Mais c'est faux. C'est faux. C'est Yanis. Tiens, écoutez Yanis, à mon avis, c'est surtout pour ça. Mais vraiment, ça inquiète un peu.
Peut-être. Inquiétant, faut
avec les équipes. En tout cas, Paris est toujours en lice. Pour le rappeler.
Par rapport à la saison, comment elle se déroule. En fait, Paris, c'est tellement un club particulier avec tout ce qu'il y a eu avec le Qatar et tout que pour moi, Paris est prêt à prendre la Ligue des Champions parce que avec Final 8, Final 4 et tout, c'est une trame qui est différente de d'habitude. Donc pourquoi pas la prendre cette année-là. Après il y a le Bayern,
ils vont parler, Paris va gagner.
Oui, d'accord.
Ils ont gagné des champions différemment.
Je suis d'accord, mais à un moment donné,
on en avait parlé.
Pour d'autres équipes, il y a eu plein de choses, il y a eu des choses qui ont été dites. Au final, l'étoile, elle est là. Il y a le nom écrit au palmarès. Mais je pense que Paris, justement, s'il y a eu bien une année entre guillemets dans cette ère-là. Et vu qu'elle est particulière, je pense que cette année ils peuvent la prendre, même s'il y a des concurrents comme le Bayern qui est présent, il reste la Juve et
après, on est supporters parisiens, donc en vrai, on parle un peu avec le cœur.
Ouais, neutralité sur le plateau.
On a expliqué quelque chose. Quand on a gagné 4-0 au match aller contre le Barça au Parc, imaginons le corona serait tombé. D'accord. Là, les gens auraient dit, c'est bon, la Ligue des Champions, on a battu le Barça 4-0. Au final, match retour, tu vois, 6-1.
Oui, etc. Oui, c'est vrai.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention.
Il y a des fois, c'est vrai que faut être honnête, mais avec le ressenti de supporter, des fois il y a des matchs où tu les sens bien et au final tu mets les pieds dans le plat et tu tombes la tête la première. Et il y a des matchs comme cette année, peut-être Dortmund, moi en tant que supporter et quand même j'aime bien le PSG, j'étais pas plus emballé que ça. Et pourtant on est passé et je pense que c'est peut-être la bonne année par rapport au contexte surtout.
On verra franchement.
Ouais, mais ça voudrait dire qu'on a besoin d'un contexte particulier pour la gagner, tu vois.
Ah, c'est le football, hein.
Ouais,
ça se trouve que ça nous lancera sur une autre phase si jamais ça arrive cette année.
On verra ce que l'UEFA va décider.
La première c'est toujours la plus dure.
On verra.
Donc pourquoi
possible,
pas.
Possible. Mais après vaut mieux la gagner comme tout le monde et après voilà quoi.
Ça sera particulier pour tout le monde.
Oui, mais là si elle vient quand même.
C'est une Ligue des Champions particulière, limite faut même pas la jouer. et on rejouera la prochaine.
Non, quand même pas. Non, il faut la jouer quand même.
Elle est supportée, il faut la prendre. Tous ceux qui ont galéré là. Diané, il était là, il marquait des buts à la dernière seconde à Bonal quand il y avait des équipes.
Sauf son match où il sauve le PSG, il faut savoir qu'avant ce match-là, les supporters, ils le défonçaient. Hein.
Ouais, c'est ça, je sais.
C'est vrai que.
Non, mais pour te dire, tu vois, quand c'était la galère et tout, il y a des mecs qui étaient là, voir leur club maintenant au haut niveau, ça fait toujours plaisir, tu vois, quand t'as eu des effectifs moindres et que tu jouais la 10e à la 15e place, là que tu joues la première place, forcément, peu importe la saveur et la manière dont ça se déroule, je pense que les supporters seront contents et ce serait les premiers contents, même avant les joueurs.
On devrait pas. En tant que supporter, je parle en tant que supporter. Hein.
Bien sûr.
Moi, j'aurais tellement on a galéré, je voudrais qu'on la gagne normalement.
Ouais.
Et pour moi, il n'y a pas de normalement.
Elle est normale, là. On
va voir s'ils peuvent la gagner.
Elle n'est pas normale.
En 2019, en 2020, pardon, et puis après en 2021, qu'ils essayent de faire le
pourquoi pas.
Ce serait bien.
Ce sera la première et après, on aura d'autres. Ne vous inquiétez pas.
J'espère, en tout cas.
On va la sentir.
Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditeurs de Beurre FM. C'est promis, on reviendra avec notre invité de ce soir, on le rappelle, ancien international français, Abdelatif Benazi. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h-20h. Toujours en compagnie de nos consultants, vos consultants, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Abou avec moi, Anas et sans oublier Abdel ce soir. Et aussi le 01-53-48-3000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. L'ancien troisième ligne et capitaine de l'équipe de France est avec nous ce soir, monsieur Abdelatif Benazi.
Time Sport.
Merci à la réalisation. Comment allez-vous, monsieur Benazi?
Je vais bien, merci. Et vous?
Eh ben nous, on va très très bien. D'entendre un mythe, un grand du sport, une légende aussi du monde de l'Ovalie, si je peux me permettre.
Du 15 de France.
Ouais, et c'est carrément. Ça. Ah, hein, on est comme des fous.
Le plateau est animé.
Je
vois que le plateau.
Il est animé, monsieur.
Bonjour à tous.
Abdelatif, justement.
Bonjour.
Depuis ce confinement, que raconter à tous les auditeurs, les auditrices de Beurre FM, car on sait que vous avez rejoint la liste de Florent Gris dans la campagne pour la présidence, hein, à la Fédération française de rugby, si je me rappelle bien.
Oui, on en travaille beaucoup depuis le confinement, depuis qu'on a été un petit peu confiné, qu'on pouvait pas sortir, donc on a beaucoup de réunions tous les jours avec les clubs. Vous savez qu'il y a pratiquement 2000 clubs en France, et ceux qui ont le pouvoir de pouvoir élire le futur président de la Fédération française de rugby. Et donc, du coup, on leur présente notre projet, on se rapproche d'eux, et puis on leur explique un petit peu le constat des 4 dernières années. C'est un projet qui est basé sur la promotion de notre sport, qui a été ébranlé depuis 4 ans, avec un nombre de licenciés en moins de 45 000, et une audience au sein de l'équipe de France qui est en baisse. Des problèmes de trésorerie de la fédération et puis quelques soucis, quelques scandales un petit peu qui ont nui à l'état d'esprit de ce sport. Et voilà, donc il y a toute une équipe un petit peu qui est très diverse de toutes les régions de France. Bien sûr, un jumelage entre les internationaux avec Serge Blanco, Jean-Claude Scrella, Eric Champ, Jean-Marc Lhermé, Fabien Pelous. Vous avez pratiquement 1000 sélections au 15 de France, plus ceux qui connaissent le rugby du territoire, puisque les électeurs, c'est les clubs amateurs. Je le rappelle, il faut rappeler que la fédération gère les clubs amateurs, le rugby amateur et toutes les équipes de France. Elle ne gère pas le rugby professionnel. Donc voilà, donc il y a tout un maillage entre une équipe complémentaire, des personnes qui connaissent le rugby du territoire, notamment Florian Grill, qui
est
depuis très longtemps, qui est un homme assez rare, qu'il faudra louer. Alors peut-être pas une grande notoriété, mais on est là pour le soutenir, pour
le
mettre en lumière, parce qu'il a des idées assez exceptionnelles.
Oui.
C'est un chef d'entreprise qui a réussi, mais surtout qui a montré son talent en gérant le rugby amateur depuis 40 ans. Et donc voilà, donc on est très confiant pour redorer le blason et puis dire au club qu'il y a un vrai souci de gouvernance, un vrai souci de vision. Il y a un projet qui devrait être humain avant tout, avant qu'il soit planique ou financier ou autre.
Ouais, justement, vous dites, je cite, hein, vous connaissez bien Florian Grill. Il était dirigeant aussi de l'ACBB, l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt en région parisienne. Quand vous entraînez avec lui et les anciens aussi, après votre carrière avec ce club, on avait amené aussi un projet citoyen, surtout reprise. Les 120 gamins défavorisés de Boulogne-Billancourt, si je peux me permettre, au Maroc avec Nour, votre association. Exactement. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui passe les barrières et qui essaye justement de mettre en place ce renouveau, si je peux me permettre. Et de ne pas oublier certaines fois ces personnes oubliées.
Il n'a pas oublié un petit peu le fondamental, je dirais, de notre sport. Le sport, le rugby, ce n'est pas que le top 14 ou les internationaux. C'est d'abord s'occuper des jeunes, s'occuper de leur destinée, s'occuper des actions citoyennes, s'occuper du citoyen lui-même. Et c'est ça qui est fabuleux. Moi, j'ai plaisir à gagner contre les All Blacks ou gagner un grand chelem. J'ai aussi un plaisir de voir un gamin découvrir notre culture et autres. Donc, on a ramené 240 gamins. Découvrir notre culture à l'âge très tôt, à la précoce de 11 ans, 12 ans, d'aller soutenir une école, d'aller jouer avec des rugbyman de d'autres cultures, même s'ils ne parlent pas le même langage, mais ils ont un seul langage, celui de la fraternité, celui du partage. Et quand je vois ces gamins de l'époque, qui sont aujourd'hui des adultes, qui sont amis avec moi sur les réseaux sociaux, que je vois d'ailleurs dans les grandes hockey, dans les grandes écoles, les grandes entreprises ou les grands clubs d'aujourd'hui, ils ne nous ont jamais oublié cet instant-là. Donc c'est ça surtout le rugby. C'est le rugby un petit peu qui forme, qu'on a oublié. On a toujours montré ces quatre dernières années que le rugby vers le haut, que le professionnalisme. Ouais. Vous ne pouvez pas parler à un gamin de 10 ans de gagner ou de détruire l'adversaire ou de plaquer ou autre. Un gamin de 10 ans, si vous voulez qu'il fidélise, il faut qu'il fasse des choses ludiques, qu'il échange, qu'il se construit, qu'on l'aide à se construire. Parce que le vainqueur de ça, c'est pas être champion ou être en équipe de France, c'est d'être un homme bien inséré dans la société, et puis intègre, et puis d'ailleurs qui a appris beaucoup sur soi. C'est ça le rugby, surtout.
Ouais. Vous le dites si bien. Une réaction avec Abou, notre consultant ce soir.
Bonsoir, monsieur Benazi. J'ai une question par rapport à la situation qui se passe en ce moment avec le rugby mondial. J'aimerais savoir, est-ce que vous allez vous mettre, est-ce que l'hémisphère du Nord et l'hémisphère du Sud vont se mettre d'accord pour mettre un calendrier qui va permettre aux sélections d'avoir une meilleure
harmonisation.
Parce que franchement, c'est pas normal que le top 14 se joue en même temps que les trois nations. C'est complètement aberrant.
Il y en a pas mal qui me disent.
Voilà.
C'est vrai.
Est-ce que ce sera possible que ce problème-là soit réglé durant les prochaines semaines ou les prochains mois?
Alors, ça a toujours été l'éternel problème, le problème de calendrier. Pourquoi? Parce qu'on a le rugby, c'est un sport qui est très populaire dans le monde, mais il n'est pas universel. C'est un peu paradoxal.
Ouais.
Il concerne que quelques grands pays anglo-saxons surtout, et qui sont une partie, un pôle dans le nord et un pôle dans le sud. Mmh. Et vous savez très bien que c'est compliqué un petit peu de pouvoir faire un championnat rapproché entre ces deux pôles. Donc voilà, donc ça a toujours été un problème. Il y a au jour d'aujourd'hui, là, il y a une discussion à World Rugby sur cette réflexion de pouvoir harmoniser ce calendrier sans léser une structure qui est déjà en place. Prenons notre championnat dans le Nord et le championnat anglais, qui sont des championnats forts, des championnats de clubs, qui ont leur public, leurs sponsors, leurs partenaires, et qui a une ambiance qui est très importante d'une année à une autre, et qu'il faudra le mettre en harmonie avec les matchs internationaux qui sont de plus en plus nombreux, et des fédérations de l'hémisphère sud qui sont en difficulté financière, et surtout en cette période de Covid, là, pour 3 mois.
Oui.
Voilà, ils sont très populaires, mais ils sont en difficulté financière. Mais c'est le Nord qui génère, sur le plan financier, des ressources importantes avec la Coupe du Monde. Donc voilà, donc c'est une réunion importante qui est en train de se passer pour essayer de trouver une harmonie sur le calendrier international, peut-être revoir un petit peu les tournées qui se passent l'été, et les tournois de 6 nations, de le concentrer un peu plus sur 6 semaines au lieu de 8 semaines, sans pouvoir un petit peu, je dirais, je le répète, léser les championnats français et anglais et de l'hémisphère nord. Donc voilà, donc c'est une discussion qui doit se faire en respectant les structures qui sont en place, mais surtout en harmonisant un calendrier qui, d'abord, le plus important, qui coïncide avec la santé des joueurs. Je crois que le joueur aujourd'hui, il fait de plus en plus de matchs. Le rugby, vous le savez, à ce niveau professionnel, les dimensions physiques et la vitesse, il y a une telle que les blessures sont de plus en plus graves avec les commotions cérébrales et tout ça. Mais quand on voit le problème économique, il ne faut surtout pas oublier le problème de la santé des joueurs qui peuvent être aussi graves.
Parfois, mis de côté.
Il y a tout un équilibre à trouver pour que tout le monde puisse trouver son mot à dire et son confort là-dedans. Et en respectant les institutions, je prends l'exemple par exemple de la Fédération française de rugby, qui doit gérer l'équipe de France et le rugby amateur, mais qui est en train de m'initier, qui parlait à la place de la Ligue. Donc, c'est quand même pas très très respectueux aux institutions et aux présidents de la Ligue ou aux clubs, qui ont investi beaucoup d'argent dans la structure. Moi, j'étais manager général de Montpellier, je sais que l'argent qui a été mis dans ce club pour le réformer, pour gagner des titres, mais on ne peut pas venir décider à sa place. Donc il y a une ligue qui s'occupe de ça. Donc c'est pour ça que dans notre projet, nous, c'est d'abord une conciliation,
oui,
et une discussion commune avec la ligue professionnelle et le rugby amateur et l'équipe de France pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente avec les autres nations et avec World Rugby, et chacun puisse avoir un bénéfice à ces discussions-là.
On enchaîne avant de terminer, M. Benazi, avec Abdel.
Une question. Quelle différence vous voyez entre le rugby de votre époque et celui actuel en dehors et sur le terrain?
Si j'ai bien compris la question, c'était le rugby de l'époque, de mon époque.
Oui, le rugby de votre époque et celui, ouais, actuel, quelle différence vous voyez hors du terrain et sur le terrain?
Alors, bien sûr que bon, il est de plus en plus professionnel, il y a un peu plus de moyens sur le plan économique.
C'est sûr.
Voilà, moi j'ai eu la chance de connaître les deux périodes. Moi, je connais la période semi-amateur et la période professionnelle. Donc, quand je suis parti en Angleterre au Saracens, tout ça. Donc, le système actuel aujourd'hui, je l'ai vécu. Mais ce qui me fait mal un petit peu, c'est qu'on a divisé un petit peu le monde de rugby. On ne parle maintenant que du rugby professionnel, en oubliant bien sûr l'origine un petit peu d'où le joueur sort, hein, des clubs amateurs et autres, et on oppose un petit peu de ce monde. Il y a même, ce qui est plus dangereux, il y a même une imitation un petit peu de clubs amateurs qui tend un petit peu à copier le rugby professionnel, alors que c'est deux rugby différents, deux managements différents, deux façons de pouvoir gérer la formation différente. Et voilà, donc il y a il y a un peu moins de proximité avec les gens parce qu'il y a de plus en plus de matchs, il y a plus en plus, il faut être beaucoup plus reposé. Les joueurs sont beaucoup plus, je dirais, centrés sur eux, tout en gardant bien sûr cet esprit de solidarité qui est propre au rugby. Mais il y a aussi l'apport aussi des agents, il y a tout ça. Donc, il y a quelque chose qui est propre au rugby, mais qui est un petit peu taché par un petit peu ce qui se passe dans certains sports et tout ça. Un peu le mauvais côté de certains sports qui est en train d'arriver chez nous. Il faudra le préserver. C'est un sport qui est à part, qui est basé sur les valeurs, qui est basé sur la solidarité. Et on peut être professionnel tout en restant proche un petit peu de la formation, des valeurs un petit peu de ce sport et surtout un petit peu de cet esprit de citoyen qu'il faut avoir en étant joueur de rugby.
Monsieur Benazi, on termine cette interview avec Anas. On t'écoute.
Bonsoir monsieur, j'aimerais juste vous poser une question parce que je sais que le rugby a d'énormes valeurs et ça prône le respect, etc. Mais ouais, il y a une seule question qui me tracasse, c'est que c'est un sport avec des valeurs incroyables, mais on n'arrive pas à le faire populariser dans le monde entier. C'est ça le problème, comme le foot ou quoi que ce soit, alors que peut-être le foot on peut dire qu'il y a un peu moins de valeur. C'est beaucoup plus, ouais, carré dans le monde du rugby. Et comment faire pour pouvoir faire aimer alors, ce sport-là grand, au monde c'est entier?
C'est le grand chantier. Depuis que le rugby A7 a intégré les Jeux Olympiques, c'est un des premiers objectifs un petit peu pour démocratiser ce sport dans le monde.
Ouais.
On peut pas arriver avec le rugby A15, par exemple, de suite au fin fond de l'Afrique ou en Asie pour dire que les règles sont plus compliquées. Il faut une transition. D'ailleurs, c'est ce qu'on propose dans notre programme avec la jeunesse. On ne peut pas dire à un gamin de commencer à jouer à 15 à plaquer. Il faut d'abord initier les filles et les garçons à ce sport par un jeu ludique qui s'appelle par exemple le rugby A5, où il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de mêlée. Le rugby A7, le rugby A10. Il y a plein de transitions qui peuvent faire aimer ce sport avant d'arriver à ce stade où comprendre les règles, les codes et autres. C'est comme ça que le développement se va se faire. Et aujourd'hui, je pense que la responsabilité de World Rugby aujourd'hui, c'est de se tendre vers ça. Faire ce rugby à 7 envers les pays en voie de développement, petit à petit, mais surtout aussi démocratiser les institutions. Je pense que le grand débat sur le plan politique à l'élection de président de World Rugby, et on donne beaucoup plus d'importance, et ça c'est quelque chose qui existait depuis très longtemps, aux grandes nations. Les grandes nations, ils ont droit à trois voix pour pouvoir se faire élire. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus démocratique avec certains pays, même qui sont en voie de développement sur le plan de rugby, mais qui puissent avoir leur mot.
Leur donner de la légitimité.
Ça veut dire aussi le retour aussi de ressources de la Coupe du Monde pour pouvoir se développer. Il y a beaucoup de clubs en Afrique qui n'ont pas les moyens.
Mmh.
Alors, en-delà de la culture qui est pas propre à leur pays, mais ils n'ont pas tout simplement le moyen financier et autres. Voilà. Et dans le programme d'ailleurs qu'on est en train de faire, parce que la France a toujours été une fédération qui a toujours prêté main forte. Si l'Argentine aujourd'hui, moi je faisais partie de cette époque des années 90, si l'Argentine aujourd'hui est devenue une grande nation et l'Italie, et la Roumanie, tout ça, c'est que la France a toujours prêté main forte par la formation, par des échanges culturels. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est qui est vraiment alors l'honneur de la fédération française qui a été malheureusement un peu coupé.
Et le faudra. On le rappelle, ancien troisième ligne et capitaine du 15 de France, mais aussi originaire du Maroc. Il faudra aussi aider le peuple africain pour faire évoluer aussi Monsieur Benazi.
Alors je rappelle tout simplement que la plus grande.
Que vous allez gagner.
Alors, rapidement, allez-y.
Question, le plus grand comité où il y a le plus de licenciés en France, c'est l'Île-de-France.
Ouais.
Et je me réjouis de voir des grands joueurs maintenant comme Camara, comme des anciens comme Marlu et tout ça, qui sont sortis de la banlieue de Paris, de tout ça, Marcy, etc. Il y a le formateur,
ouais.
Et qui rejoignent des groupes professionnels. Donc, au jour d'aujourd'hui, notre tête de liste qui s'appelle Florian Grill, qui est le président du coup de la Ligue Île-de-France, où il y a pratiquement 90% de personnes qui sont pour son projet, pour se faire élire à la fédération, mais qui montrent aussi l'exemple, c'est la démocratisation de ce sport. Aujourd'hui, on est pénétré par des filles et des garçons avec un taux assez extraordinaire. Il faudra continuer et le mettre sur le plan national.
Merci, Monsieur Benazi, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM et à très vite. À de suite avec la dernière pause.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Time Sport. Avec Bilal Nenma.
Eh oui, et pas que, toujours avec les consultants, je vous rappelle, Abdel, Abou et Anas pour m'accompagner ce soir, ce premier jour de semaine. Eh oui, le lundi 15 juin, le 01 53 48 3000, et on rejoint directement la région transalpine.
Time Sport, la victoire.
Eh oui, désolé cher auditeur, hein, Nicolas est amoureux en ce premier jour de semaine, c'est pour ça. Hein. Et quand on parle de Cristiano Ronaldo, il est en train de bugger, c'est pour ça, il est en train de bugger. Eh oui, Cristiano est la Juve,
juste
après un penalty raté, Nicolas, eh oui, et un match assez poussif, la Juve obtient quand même le droit de disputer cette fameuse coupe, la finale de la Coupe d'Italie. Ouais. Que retenir de ce fameux match? On t'écoute, Anas.
Moi, je trouve que c'est trop facile de rabaisser Cristiano à un penalty manquant. C'est-à-dire que tellement le mec, il est au-dessus de tout le monde, il fait le moindre truc, boum, on lui tombe dessus. Ça prouve qu'il est super fort et qu'on doit même pas en tenir compte qu'il a raté un péno ou qu'il en, tu vois. Donc, du coup, je trouve ça un peu rabaissant pour le joueur. En sachant que c'est le meilleur joueur.
Ouais, mais on est habitué à ce qu'il donne tout sur un terrain, mais aussi à avoir des exploits
individuels. Bien sûr, pas comme Messi, mais voilà, c'est ça.
Ah, Messi, il est au-dessus.
Non, Messi, il est en dessous. On appelle, tu sais, le pied gauche de Messi s'appelle Iniesta et le pied droit de Messi s'appelle Xavi. Et depuis qu'il est parti, dis-moi, qu'est-ce qu'il a gagné sans Messi, sans Iniesta et Xavi? Messi, dis-moi.
Ouais, j'ai que des pros. Madrista.
Oh. Non, c'est pas ça. C'est toi qui fais les mauvais choix, Bilal. T'as des mauvais choix de vie. T'es pour Marseille, t'es pour le Barça. Écoute, Bilal. Dépose le micro.
Sur le sujet ou pas?
Bilal, dépose le micro. T'as plus de légitimité.
La légitimité, elle est partie. Ah là 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 là. Tu vois,
Madrista.
Allez à bout, justement. Concernant le CR7.
Oui. Non, franchement.
Le joueur.
Oui. Ce qu'il réalise, CR7 à la Juventus, c'est très fort. Après, bon, pour sa reprise, il a raté un penalty. Ouais. Je me rappelle j'ai vu son visage. Il a vraiment
normal. Il a l'air de stats.
Je pense que mercredi pour la finale de la Coupe d'Italie contre Naples, il va vouloir mettre un triplé ou un doublé. En tout cas, je pense qu'il arrivera quand même à faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire permettre à la Juventus de gagner des titres.
Avec ouais.
Après, Sarri veut l'installer en numéro 9.
Oui, bon, ça,
il a déclaré à la fin du match je veux que tu sois le numéro 9. Donc voilà, donc pour Higuain et les autres, ça va être compliqué de pouvoir avoir du temps de jeu. Donc voilà, maintenant je me fais pas de soucis pour Cristiano Ronaldo. Il arrivera à faire le boulot, à faire le taf. Et je pense que mercredi, en finale de Coupe d'Italie contre Naples, il risque de faire très mal.
Il va faire très mal.
Par rapport à Ronaldo, et plus par rapport au match face à Milan, c'était vraiment un match de reprise, hein, 0-0.
Bien sûr, évidemment.
En plus. Si les deux équipes quand même phares du championnat comme le Milan et la Juve sont pas prêts à envoyer les chevaux directement, c'est normal, c'est un match de reprise. Après, concernant le péno de Cristiano, ce qui fait que on en parle, c'est parce que déjà il en rate pas souvent.
C'est ça, ouais.
C'est surtout que c'est en demi-finale d'une coupe et non en championnat. Ah ouais. Et que c'est le retour du confinement et de la compétition. Mais après, je pense que comme on le dit à Abou et Anas, c'est un compétiteur. Quand il rate, en général, il fait assez mal. Après, on a dit un peu poussif parce que la Juve a quand même dominé les débats avec plus de 17-18 tirs et le Milan a été quand même inoffensif. Par rapport au match aller qui s'est passé avant le corona et le confinement. La Juve mérite totalement sa place en finale. Et retrouver Naples contre la Juve en finale, c'est une belle affiche. Voilà. Et On a hâte de voir ça mercredi prochain.
Le Napoli éliminé l'Inter après après un match nul. Lui aussi, Koulibaly et les siens vont-ils peut-être assurer cette saison ou sauver cette saison, messieurs?
Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Naples de pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils ont pris du retard. Ils ont pris du retard.
Pour toi, oui.
Ah oui, ils ont pris du retard par rapport à la Roma, par rapport à l'Atalanta. Mais c'est très difficile. Mais en plus, Gattuso, tactiquement, je ne trouve pas très cohérent.
Déjà, Gattuso, c'est un mec. Il te met la dalle qu'il avait sur le terrain, il essaye de la mettre à ses joueurs. Mais c'est ça que je veux dire. Ouais. Après, il faut avoir d'autres paramètres en place, c'est dur. Après, le contexte de Naples est très compliqué. Il y a des Alan qui jouent plus. Il y a des joueurs cadres qui sont sur le banc parce que soit rébellion parce qu'ils voulaient partir, soit ils en ont marre. Et comme on disait tout à l'heure, par exemple, avec Paris, fin de cycle, ils ont envie de ils ont envie de sortir de là. Donc c'est compliqué. Après Naples, c'est aller-retour la finale ou c'est
non, c'est que un seul match. Et c'est ce mercredi.
Donc c'est pas mal. Je pense que sur un match, profiter du fait que c'est la reprise peut-être pour jouer sur ça. Après Ronaldo, la Juve, c'est des compétiteurs. Ils ont envie d'un doublé, d'un triplé. Ils ont envie de marcher sur tout le monde, montrer qu'en gros ils sont au-dessus. Et surtout en Italie, peut-être que cette année c'est un peu plus particulier, notamment au niveau du championnat où ils ont un peu plus de concurrence. Et là ils ont repris un peu d'avance et gagner la coupe pour eux, ce serait une logique.
Ce serait pas inattendu de les voir gagner.
Après Naples, pourquoi pas se dire ça va être dur pour aller accrocher peut-être la Ligue des Champions. Le titre c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on va peut-être avoir un titre et obtenir
une
autre
chance pour sauver leur saison, c'est gagner la Coupe d'Italie.
Et en championnat, avec l'effectif qu'ils ont, il faut vite qu'ils gagnent entre guillemets un titre parce que comme l'a dit Abdel, l'année prochaine il y a beaucoup de gens qui vont partir.
Ah oui,
ils
auront pas un gros ménage.
Effectif.
Après l'Italie, l'Espagne, c'est parti.
Time Sport. Le duel.
Eh oui, une nouvelle qui fait froid dans le dos, dans le milieu de l'escalade en France et qui est en deuil aussi, avec la chute mortelle pour la jeune championne française d'escalade, Luz Douadi. Âgée de 16 ans, elle a été victime d'une chute mortelle, vous voyez, dimanche sur un sentier en Isère, alors qu'elle allait s'entraîner sur un site. Voilà, ça c'est pour la petite info qu'il fallait donner quand même en ce début de semaine. Et nous on va s'attarder sur ce Real versus Barça aussi, avec cette reprise de la Liga. Les deux ogres espagnols en démonstration dès les premières minutes de jeu. Qui a fait pour vous, selon vous messieurs et aussi les auditeurs de Beurre FM, la plus forte impression?
On peut pas juger dès maintenant, comme il a dit Abdel tout à l'heure par rapport au match de la Juventus. Ouais. On vient selon juste toi. De sortir du confinement. On peut pas juger qui est plus fort, qui est moins fort, qui est ci, qui est ça. Après, c'est vrai que le Barça avait une facilité à battre son adversaire.
Mallorca.
Ouais, et que le Real a un peu plus galéré. On a même vu Marcelo un peu blessé, etc. Donc, on peut pas juger pour le moment. Attendons encore un peu et on verra suite aux prochaines journées.
Non, pour moi, les deux sont à égalité. Pour moi, il y a pas un qui est plus fort que l'autre. Et les deux ont fait une bonne rentrée. Donc maintenant, je pense que ça va être très intéressant dans les jours à venir. Déjà demain, Barcelone joue contre Leganés. De jeudi, jeudi, t'as le Real qui joue contre Valence. Donc voilà, et vendredi, t'as Barcelone qui joue contre Séville. Donc je pense que d'ici vendredi soir, on pourra savoir qui va prendre une option pour gagner la Liga.
Ce qu'on peut voir, c'est juste que les deux reprennent la marche qu'ils avaient laissée avant le coronavirus. Après le problème, mais Barça a pas forcément fait un bon match. C'était un peu poussif dans le jeu. Bon, Messi, il envoie deux passes D, un but. Lui, parce que c'est un peu la star de l'équipe, voilà, depuis très longtemps maintenant. Le Real, ils se sont mis à l'abri assez rapidement. Une mi-temps, c'était réglé. Donc, je pense que, en vue de ce que vous dites par rapport à l'enchaînement des matchs, ils se disent qu'ils vont accélérer rapidement. Ils vont essayer de sceller les matchs rapidement pour peut-être avoir la possibilité de sortir, peut-être d'avoir plus de récupération, etc. C'est possible.
Mais ça, c'est un mauvais calcul.
Oui, oui.
Non, c'est le meilleur moyen de se blesser.
Oui, d'accélérer après de couper. Mais je pense qu'ils pensent quand même comme ça parce que l'enchaînement des matchs peut être déterminant. C'est et en plus, surtout jours. Quand tu es dans une course au titre et surtout quand tu chasses.
Ils ont que deux points d'écart.
Deux points d'écart. 59 et 61.
C'est ça.
Donc ça va être une belle fin de championnat.
C'est trop. Moi je trouve que tous les deux jours. Après je pense que c'est la Liga avec les pubs, les machins, etc. qui leur mettent la pression pour accélérer, etc. Et c'est le vous allez voir, il y aura beaucoup
c'est
trop de blessés.
C'est au détriment des joueurs.
Bah, on regarde Marcelo, quand il revient, il se pète direct. Il était blessé.
Mais bon, c'est suicidaire.
Parce que c'est pas les joueurs qui décident, c'est les instances au-dessus.
Ouais, c'est la Liga, ils arrivent, ils sont obligés de jouer.
Ouais, peut-être. Les doutes au sujet du niveau, justement, de la reprise, sont-ils dissipés après ce week-end?
On peut pas juger.
Justement, après ce week-end, Anas, tu peux juger là.
Même pas.
Te dire peut-être que les, les matchs qu'il y a eu.
Par exemple, on parle de la Liga, mais à contrario, par exemple, la Bundesliga.
Alors les Allemands.
On a essayé de voir peut-être ce championnat qu'on nous dit qu'il est, il y a plein de spectacles, etc. Mais en termes de jeu, au fur et à mesure où on avance dans les matchs, c'est alors déjà ça défend n'importe comment. Il y a des équipes qui sont cuites. Les joueurs, ils arrivent même pas à assumer 90 minutes, même s'il y a 5 changements. Donc, on voit un peu les largesses, les lacunes des équipes qui avaient un bon train et qui étaient en marche durant l'année, et ceux qui étaient qui c'était compliqué, tu vois. Donc voilà. Pour moi, ceux qui étaient bien avant le confinement, ben ça va pas bouger. Et ceux qui étaient en difficulté, ben
ça va pas bouger aussi.
Voilà.
Un exemple, chaque fait n'importe quoi, chaque.
On suit une trame. Mais pour moi. La Bundesliga, c'était peut-être l'occasion de voir un championnat qu'on n'a pas l'occasion de regarder.
Ah oui, tout à fait, parce que mais le championnat reprend.
Franchement,
on ne regardera pas la Bundes.
On l'a vendu, mais je pense que quand même en Liga ou en Serie A, il y aura peut-être un niveau un peu plus élevé à venir.
Je trouve que la Serie A, là, comme l'a dit tout à l'heure avec la Juve, etc. Je pense que les équipes commencent à monter. Il y a plus en plus de bonnes équipes.
La Serie A, ça va être une lutte intéressante.
Inter, ils sont plus dans le coup.
Ils sont un peu
éloignés.
Mais belle saison de Conte quand même, c'est pour ça.
N'y arrive toujours pas. On est passé, monsieur Anna. C'est aussi à bout. Ça y est, on laisse la Juve. Là, on est sur l'Espagne.
On parle des championnats.
Ok, là, on part sur le continent nord-américain.
Time Sport, le mode pressing.
Abou, j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Le comité olympique américain veut permettre aux athlètes de manifester davantage leur opinion. Aïe. Tu vois, Abdel, c'est pas comme en Europe, hein. Je sais pas. Là, c'est carrément le comité olympique et paralympique des États-Unis qui va réviser ses statuts pour y inclure la notion de contestation de la part des athlètes tenus jusqu'ici au devoir de réserve aux Jeux Olympiques. On vous écoute.
Double tranchant.
Ouais, c'est une belle initiative, mais comme mes collègues, c'est à double tranchant.
Il faut savoir communiquer, déjà, de un, et de deux, c'est compliqué. Il y en a qu'il faut savoir donner les bons mots. C'est mieux peut-être qu'ils s'entourent déjà avant de discuter. Après, ceux qui font déjà des choses, eh ben, ça va leur permettre d'être peut-être plus libres. Ceux qui ont l'habitude, je veux dire. Après,
c'est facile pour eux parce qu'ils ont l'habitude.
Faut pas arriver dans le troupeau et dire on me laisse ma liberté. J'envoie tout et n'importe quoi parce que les gens sont suivis par des petits, des plus âgés, mais faut faire. Parce que là, s'ils font ça, c'est par rapport à ce qui se passe aussi, notamment aux États-Unis. On va pas se mentir, c'est par rapport à l'actualité. Donc, faut tempérer et faut avoir les bons mots.
Faut cadrer.
La communication, on en parle souvent. En général, dans le monde du sport, on dit que c'est des footeux, c'est des gens qui font du basket, etc. C'est des sportifs. Mais si tu donnes cette carte-là, il faut savoir la gérer. Quitte à bien s'entourer, faut le faire de personnes qui sont bons communicants.
Après, mettez des limites. Moi, je trouve que c'est un peu dangereux. Parce qu'au final, ça peut détruire des carrières. Sur une mauvaise communication, sur une mauvaise.
Un peu comme Copernic aussi.
Ou des mauvais choix de mots.
Footballeur.
Et du coup, ils vont dire ah non, mais lui, il est comme ça. Moi, je pense qu'il est comme ça. Non, arrêtez de le suivre. On regarde juste. Je reprends Cristiano, je sais que c'est l'affaire de Cristiano où il a eu une pseudo histoire de viol et que FIFA décide de le bloquer, de pas mettre sa photo, même sa gamme de chaussures Mercurial a été bloquée et du coup, on voit les retombées, juste une question de notoriété, d'image ou quoi. C'est foutu. Donc faut faire très attention. Moi je pense que c'est trop dangereux et ça va.
Ou alors choisir des têtes d'affiche qui peuvent parler plus que d'autres, ce serait pas mal de choisir.
Mais même eux, ils sont pas à l'abri de, tu vois.
Non, c'est vrai, mais bon, il y a quand même des têtes d'affiche les vaches à lait entre guillemets pour parler de tout ça.
Là, je reprends le foot, Messi par exemple, ça ferait bizarre que Messi donne son avis moi ça alors
parce qu'il y en a qui vivent le terrain et ils parlent pas.
Voilà,
les attentions sont bonnes, attention aux conséquences. Les attentions sont bonnes, attention aux conséquences.
Merci Anas d'avoir été avec moi, sans oublier aussi Abdel.
Merci à toi Bilal,
Myriam et Jouba, un gros big up à
la réalisation
de la technique. Ouais, on va la terminer quand même messieurs. On le sait, vous voulez pas lâcher le mic. Laissez-moi faire le trou tranquillement.
Non, parce qu'on a trouvé que c'était particulier Bilal.
Et là, le programme sur l'antenne de Beurre FM.
Retrouvez Timesport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.